Merci beaucoup. Bonjour ou bon après-midi, je ne sais pas, bon midi à vous. Notre commissaire Ander m'a demandé de participer à ce débat. C'est important, je suis ravie d'avoir pu écouter plus grande partie de ce débat. Nous arrivons à la fin du processus de cet exercice 2020. On est dans une étape de discussion avec les États membres, avec des priorités en conflit, contradictoires parfois avec la Commission, avec moi-même. Moi, je suis responsable des politiques sociales en général et des politiques sociales dans le cadre de l'exercice Europe 2020, mais également dans le comité de politique sociale européenne où l'on discute des bonnes pratiques et ce qu'on appelle l'OMC entre États membres. Nous avons actuellement des membres de SPC avec nous pour discuter des politiques sociales dans le cadre de l'Europe 2020. Et nous appelons actuellement les pays à faire leurs recommandations. Nous sommes donc dans cette étape. C'est pour certains plus stressant et pour d'autres moins stressant. C'est en tout cas un exercice très intéressant. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que le commissaire Ander est très conscient et au courant de la préparation de cet événement et de l'année des familles à venir. Je suis très contente d'être dans ce bâtiment aussi, qui est l'organe de représentation des régions. Et il a été très intéressant pour moi d'entendre parler des approches régionales. Comme vous savez, ce n'est pas la Commission qui a le monopole des pouvoirs et compétences législatives dans ce domaine. Et je crois qu'il est bon que les questions familiales fassent l'objet de discussions au plus près possible des gens, des familles. Alors bien sûr, il y a des choses que nous pouvons faire et que je vais vous expliquer en quelques points parce que nous n'avons pas non plus un temps illimité. J'aimerais partager avec vous quelques données, quelques chiffres pour illustrer un petit peu la situation actuelle. Où nous situons actuellement au niveau de l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, cette réconciliation. Et quelle sera notre contribution à l'avenir? Si vous me passez mes transparents pour vous montrer mon exposé. Lorsqu'on demande aux femmes si elles estiment qu'elles ont un bon équilibre dans leur vie entre le travail et la vie familiale, donc ça date de 2010, c'est une enquête. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je pense que vous pouvez voir la répartition par pays. Vous pouvez constater les grandes différences. En général, on retrouve à peu près au moins 10% des femmes entre 25 et 49 ans qui ne sont pas actives, et ce pour des raisons familiales. Nous sommes passés à un autre transparent qui nous parle également de la même chose, mais pour un secteur de la population qui est plus âgé, entre 55 et 64 ans, c'est-à-dire la génération qui n'est pas censée s'occuper de jeunes enfants, les femmes en tout cas, et qui rencontrent également un problème au niveau du taux d'activité, de la présence dans le monde du travail, sur le marché du travail, et dû à des questions de soins et de garde aussi. Lorsqu'on regarde les enquêtes sur les qualités de vie, nous avons énormément de données. On peut en choisir que quelques-unes. Il y en a qui datent de 2007. Mais en général, on Si on regarde cette année, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans des ménages, des familles qui estiment que il y a une influence de leur travail sur leur famille et vice-versa. Concernant les données qu'on a ici de 2007, eh bien, nous travaillons en ce moment activement pour garantir des données plus récentes sur plusieurs domaines. Là, en particulier là où les revenus sont les plus difficiles. Je crois qu'il est important d'avoir des données plus récentes, plus précises, pour pouvoir juger également des mesures d'austérité découlant de la crise et leur impact sur la fertilité, sur la vie familiale, etc. Il serait important d'avoir des données mises à jour dans ce contexte. Un autre domaine dont on a parlé ici est le vieillissement de la population. En 2012, nous nous trouvons à un moment charnière, clé pour l'Europe. Pour la première fois, nous arrivons à un plateau en ce qui concerne la population en âge de travailler. Il existe bien sûr différences selon les pays, mais dans l'ensemble, cela signifie que nous aurons une augmentation de la population au-dessus de 60 ans. Un vieillissement donc de la population que vous pouvez voir très clairement sur ce graphique, une tendance qui continue et qui ne cesse d'augmenter après 2030. Je ne veux rien voir après 2030 car c'est moins prévisible. Mais 2030, en tout cas, pour 2030, nous savons que les enfants qui devront travailler à cette date devront payer les retraites, financer les retraites donc de leurs parents. Donc ce sont des enfants qui naissent maintenant. Et c'est pourquoi l'impact sur la fertilité nous intéresse, même si ça ne changera pas le nombre de personnes qui devront travailler en 2030 pour financer notre système de retraite tel qu'il existe actuellement. Il est donc important de regarder les politiques publiques, pas seulement à partir de l'angle de l'austérité, mais plutôt à long terme, ce qui va se passer à long terme et les changements démographiques en Europe. Et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré les conséquences que cela peut avoir dans beaucoup de domaines. Nous sommes très préoccupés par ceci. Nous en occupons beaucoup, y compris à la Commission. Il y a 2 ans, nous avons développé à la Commission européenne et dans les institutions européennes ce qu'on appelle la stratégie européenne pour la croissance pour 2020. Certains d'entre vous connaissent le sujet un peu mieux que d'autres. En tout cas, il existe une stratégie européenne pour 2020 avec plusieurs chapeaux. Moi, je suis responsable de l'objectif pauvreté qui est le plus difficile parce que, à la base, la pauvreté n'est pas seulement un domaine, ne relève pas seulement du domaine social. Il s'agit également de limiter, réduire la pauvreté ou l'éradiquer. Mais pas seulement, il s'agit là vraiment d'une stratégie multisectorielle qu'il faut mettre en place à cet objectif. Les autres objectifs, comme par exemple les objectifs d'emploi de 75% pour 2020, sont très importants également. Et on impact sur la pauvreté, c'est ambitieux. Ce sont des objectifs ambitieux, certes. Ce qu'on peut dire pour l'instant, et je ne vais pas vous faire tout l'exposé sur 2020, je n'ai pas toutes les données, mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que dans l'ensemble, le niveau d'ambition des États membres a baissé en raison de la crise. Nous n'arrivons pas dans ce contexte de crise à atteindre et à suivre le niveau d'ambition que nous avions au départ. Et si on n'a pas un niveau d'ambition dans les plans de politique et dans ces stratégies, on n'aura pas non plus le même degré d'ambition dans la mise en œuvre. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Donc nous recommandons sérieusement aux pays et aux responsables politiques. Dit plancher pour notre exercice pour 2020. Quelque chose qui a été entendu ici à plusieurs reprises et qui nous préoccupe vraiment, c'est l'importance de se concentrer sur la pauvreté. En fait, si l'on regarde la pauvreté, elle présente plusieurs dimensions. Et je me rappelle de Transparent de l'OCDE avec différents niveaux, dimensions, et qui illustre clairement comment est-ce qu'on peut définir la pauvreté dans nos objectifs. Lorsqu'on regarde la pauvreté à travers ce prisme, l'une des plus grandes préoccupations pour les familles, les enfants et les parents, c'est le fait que dans le cas d'un parent seul, avec un seul enfant, ou des parents avec plus de deux ou trois enfants, eh bien, se trouve parmi la catégorie de plus grands risques de pauvreté. Et ce sont les catégories qui sont donc le plus exposées au risque. Concernant la garde, soins des enfants, eh bien, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il s'agit là de la meilleure approche dans notre expérience afin d'amener plus de femmes à des postes sur le marché de l'emploi, à participer plus, davantage, afin de sortir les enfants de la pauvreté, afin d'assurer leur bien-être et leur éducation dans la mesure du possible dans une situation de pauvreté. C'est une approche et nous sommes en train de développer des recommandations sur l'enfance et la pauvreté des enfants et le centre, le point d'intérêt sera ceci pour l'année à venir, les deux années à venir, avec une conférence à venir sous la présidence de Chypre. Donc, si l'on regarde les résultats par pays, on voit de grandes différences. Danemark, par exemple, Danemark. Donc, le pourcentage d'enfants entre 0 et 2 ans qui sont gardés, bénéficient d'un système de garde. Donc le Danemark est en bien meilleure position que la Roumanie, par exemple, en queue. Danemark en tête, Roumanie en queue. Donc je dirais qu'une des recommandations, ou pas recommandation, mais qui vaut la peine d'être mentionnée dans le CSR sur la pauvreté des enfants, c'est la situation de Royaume-Uni qui est précisément au milieu. On n'en est pas à la phase de recommandation, mais on est en train de se rendre compte que c'est une situation critique. Faites attention, il faudrait appeler la prudence pour ne pas empirer la situation de pauvreté dans les stratégies politiques du Royaume-Uni, par exemple, et dans l'évaluation des stratégies politiques des pays. Enfin, nous avons ce que j'ai mentionné déjà auparavant, les résultats des activités 2007, configuration d'alliance européenne sur les familles. Un de mes collègues est présent ici, à l'arrière de la salle, et qui s'occupe justement et précisément de ce volet. Je crois que l'échange des bonnes pratiques nous a beaucoup aidés, ce que j'ai compris depuis que je suis devenue directrice très récemment. Et ceci sera mon dernier transparent, mais j'en profiterai pour mentionner un certain nombre de points importants. Pour savoir comment est-ce qu'on voit cette évolution, comment est-ce que la Commission voit l'évolution future de cette situation dans un contexte de crise économique et financière, de mesures d'austérité, manque de croissance. On se concentre beaucoup sur l'emploi, l'activation vers l'emploi et la jeunesse et l'emploi. Même si la jeunesse n'est pas toujours activement, directement présente dans la famille, je crois que cela vaut la peine de s'intéresser aux jeunes et aux plus âgés aussi. Les jeunes qui sont au chômage, c'est une chose très négative, surtout quand on arrive à des niveaux jusqu'à 50%, c'est très mauvais pour toute la société. C'est vraiment l'urgence en Europe, je pense. Pour les parents seuls aussi, c'est l'urgence. Nous cherchons à investir dans les ressources humaines, dans les domaines sociaux en Europe. Et voilà quel a été le point, le centre d'intérêt pour l'instant. Nous sommes en train de redéfinir nos politiques sociales et familiales, comment arriver à un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle et travail. C'est un aspect fondamental, hein. Il faut aussi regarder à travers le prisme de la question des femmes, l'égalité entre sexes, la réduction de la pauvreté. Quand on regarde dans plusieurs pays les premiers résultats de la pauvreté et de la pauvreté des enfants, eh bien on voit que ces chiffres sont en augmentation en Europe. Et le pire, je n'ai pas les chiffres ici, mais le pire exemple, les pires exemples sont ceux de la Grèce et de l'Irlande, comme résultat de la crise économique extrême, qui a atteint des proportions extrêmes, hein, dans ces pays. Je crois qu'il faut investir davantage dans nos enfants, le futur de nos enfants, car ils sont les ressources pour notre avenir, les enfants. Et la société ne peut pas se permettre de rater cette occasion, ce temps qui se perd dans les premières années de la vie des enfants. Il faut faire en sorte que même dans un contexte de crise économique et des mesures d'austérité, on puisse faire quelque chose afin de permettre à ces enfants de se développer de la meilleure manière possible, de ne pas rater le coche, et que nous ne rations pas le coche non plus, car ils sont nos garanties de futur, nos ressources futures. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et dont nous occupons aussi, c'est la question des pensions, des retraites, le système de retraite et leur réforme qui se situe tout en haut de l'agenda de certains pays. Ce qui n'est pas très visible, en fait, c'est le niveau de pension acceptable, convenable pour les femmes, des femmes qui se sont occupées de leur famille, comme vous avez déjà mentionné. Avec l'accumulation des droits de pension, et si on n'arrive pas à développer cette accumulation des droits de pension pour les femmes qui se sont occupées de leurs enfants, eh bien on va créer un groupe de femmes âgées, souvent célibataires, qui vivent dans une situation de pauvreté. Et ce n'est pas l'objectif de nos politiques. Je crois qu'il ne faut pas être aveugle et imperméable à la question des sexes et des genres en matière de pension, je crois. Voilà les domaines sur lesquels nous planchons, nous travaillons à partir de la perspective des familles, de l'investissement social. L'inclusion des populations immigrées, des migrants est très important également dans le développement de la participation sociale et dans le monde du travail, parce que nous aurons besoin d'une participation active de ces groupes de la société, d'une population migrante adulte. Et la dernière chose que je dirais, c'est que au niveau de l'innovation sociale, je pense que nous pouvons, l'Europe doit être fière de ce qu'elle a développé. L'État-providence, qui va bien au-delà de l'assistance, de l'aide aux familles, aux individus, à la société. J'ai travaillé dans des fonctions internationales auparavant. Je peux vous assurer que j'ai connu des situations très extrêmes dont je ne vais pas parler ici. Mais quand on parlait de famille, eh bien, ce n'était pas si positif, hein, et si. Non. Par exemple, des mariages forcés d'enfants, prostitution, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ce que nous avons accompli en Europe ces derniers siècles. Il faut en être fier. Il faut faire en sorte que l'État-providence puisse continuer d'assurer une protection aux familles et aux membres de la société. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de nos acquis, de ce que nous avons accompli, et je suis toujours très préoccupée lorsqu'on se critique soi-même. Nous sommes très critiques, bien sûr, hein, envers nous-mêmes quand les choses ne se passent pas comme on les veut, comme les choses ne sont pas parfaites. Mais nous sommes maintenant à un stade où il nous faut vraiment réfléchir à la restructuration des politiques sociales et familiales les plus précieuses qu'on a. afin qu'elle soit appropriée et durable à l'avenir. Et c'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est ce qui occupe le plus notre commissaire pour l'instant, ce qui nous amène à l'innovation. On aura besoin d'innovation et d'expérience, par exemple, des expériences politiques. Les données sont très importantes, les bonnes pratiques, le processus d'apprentissage dont on a entendu parler dans le cas de Venise et d'autres. Il est très important d'échanger, d'apprendre et de fonder nos politiques futures sur des données disponibles. Et avant de conclure, j'aimerais mentionner le fait qu'on a très peu de législation sur le continent européen en la matière. Mais nous avons des fonds, des ressources et des fonds. Nous avons par exemple le fonds social. Entre 2007 et 2013, un demi-milliard ont été consacrés à l'enfance seulement, aux soins à l'enfance. C'est énorme, mais il ne faut pas oublier que cet argent est disponible, y compris dans les pays qui rencontrent le plus de difficultés actuellement. Il nous faut essayer de continuer d'aider des pays tels que la Grèce autant que possible, même avec des fonds qui ne sont pas directement nécessairement utilisés pour l'instant. 2,4 milliards ont été consacrés et alloués à l'inclusion active des femmes sur le marché du travail en relation avec les soins aux enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous, car c'est quelque chose qui est là, qui est disponible et qui peut soutenir de manière importante les activités dans les pays, dans les régions. Merci beaucoup.